Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM lundi soir. Et oui, 20h pétante. On est en live jusqu'à 21h avec toute l'équipe de Time Sport en ce lundi 13 juin 2022. On verra quoi justement. Allez, au menu, ça sera la Ligue des Nations. Les Bleus qui doivent sauver l'honneur justement ce soir du côté du Stade de France face à la Croatie. Mercato, semaine décisive avec le Paris Saint-Germain et aussi le Grand Prix d'Azerbaïdjan et les 24 heures du Mans. Le week-end, un peu de folie sur le sport mécanique. Voilà, dans cette fameuse discipline. N'oubliez pas, le numéro du standard, on vous le rappelle, c'est le 01 53 48 3000. Le débat du jour, pour vous faire réagir, chers auditrices, auditeurs de Beurre FM, l'idée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, belle alternative ou choix par dépit. Voilà, on vous donne la parole, vous nous donnez votre avis, rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Comme invité ce soir pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission Time Sport, l'ancien international Mourad Megni sera avec nous. Et oui, justement aussi, joueur en Serie A du côté de la Lazio de Rome. On se rappelle cette belle époque. Et sans plus tarder, on va vous faire aller remporter ce soir dans cette émission avec Yanis, le réalisateur, le magnifique livre d'un certain Marco Van Basten qui nous dit tout, voilà, dans ce livre aux éditions Solar. Allez, on y va, on démarre cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par Jason.
Time Time Sport.
Oui, bonsoir à tous. On démarre ce JT de ce lundi par une info qui vient de tomber en équipe de France. Antoine Griezmann sera remplaçant au coup d'envoi face à la Croatie ce soir en Ligue des Nations et sera remplacé par Christopher Nkunku qui reviendra donc dans le 11 de départ de Didier Deschamps. On reviendra justement sur ce match assez longuement avec Bilal Nenman et toute l'équipe au cours de l'émission. En Ligue des Nations, toujours à noter la victoire de la Suisse hier soir face au Portugal 1-0. Et dans le même temps, l'Espagne a elle dominé la République tchèque 2-0 et s'empare de la première place au passage dans le groupe 2. Un petit mot en Afrique avec le déplacement du Maroc ce soir au Libéria en marge de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une victoire des Lions de l'Atlas pourrait déjà quasi assurer leur participation à la prochaine édition en Côte d'Ivoire. On termine avec du rugby en barrage du top 14. Toulouse bat La Rochelle et rejoint Castres en demi-finale du top 14. De son côté, Bordeaux-Bègles pulvérise le Racing 92 et affrontera Montpellier le week-end prochain. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport.
Allez, ce soir, pour en parler de toutes ces infos concernant la planète sport, on aura Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie?
Bah, ravi d'être de retour parmi vous après ces 15 jours de pause.
Ah bah c'est bien, le mari, fraîchement papa. Ah,
il faut répéter pourquoi il est...
Ouais, ah bah pourquoi
oui,
Alors, vas-y Yacine, donne la parole.
Moi-même, je savais pas que...
Yacine est avec nous ce soir. Bah, bonsoir Yacine.
Oui.
Félicitations encore une fois.
Je profite de l'occasion pour féliciter en direct. Ouais. Lui, la maman,
voilà.
en souhaitant une longue vie pour le bébé.
Ouais.
Voilà, donc il y a toute la famille de Louis-Marie, les grands-parents aussi, ils doivent être très contents d'être... grands-parents, encore une fois.
Merci, voilà. Yacine.
Et on a rien mangé. Hein.
Arrête, Yacine.
J'ai pas le temps de cuisiner, Yacine.
Ouais. On a bien mangé avant l'émission.
La tamina, on a de la tchertchoura.
Ah ben, ça c'est bon. Le cretolé est amoureux en plus de ça.
Et là, on attend que le mari...
La belle aussi nous apportera le pain kabyle.
Guinée, mais bon, apparemment, c'est un auvergnat.
Juan José Dorado est avec nous ce soir. Comment ça va, Juan José?
Hola, buenas tardes. Très bien, parce que vous avez parlé, la France va sauver l'honneur.
Oui.
Mais vous le savez déjà, l'Espagne l'a déjà sauvée, puisqu'elle est première de son groupe. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, très bien, de mon côté, côté espagnol, moi.
Voilà, rentre aussi, Louis-Marie, sans oublier Yacine et Nabil qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Nabil?
Attention, Bilal. Bonsoir à tous et à toutes. Ça va très bien, Bilal. L'Algérie a gagné ses trois matchs. Ça va super bien.
Là aussi, l'Algérie face à l'Iran.
Trois matchs, trois victoires.
Il a bien fait de le souligner. C'est le retour du Sphinx.
Ah là là,
voilà, et on le retour. Je disais pas gagner les matchs qui comptent cette année.
Comment on dit les artistes, Louis-Marie. Ça
le
plaise,
tacle à la gorge de lui.
Ça plaise ou ça déplaise à Louis-Marie.
Ah ben,
les artistes
déplaît.
Ne meurent jamais.
Ouais. Et
l'Algérie est
de retour. On va dire ça à Yannis aussi.
Bon, tu m'as mis à côté d'un Espagnol. En ce moment, voilà. Les relations ne sont pas
Là,
ils sont
chauds, l'Espagnol.
Ah oui, c'est chaud. Et ça risque de chauffer aussi sur le plateau. Je vous le préviens.
C'est à cause du gaz.
C'est à cause du pétrole aussi.
Ouais, c'est vrai. Allez, le premier sujet de cette émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
On va revenir, c'est promis, sur l'Algérie avec notre invité de ce soir qui n'est autre que Mourad Megnir. Voilà, je tiens bien à le rappeler pour les auditeurs de BORFM. Groupe A, 20h45 du côté du Stade de France. La France qui accueille donc la Croatie d'un certain Modric. Quatrième journée sur les 6. Oui Marie, eh ouais. Ouais, on aimerait quand même avoir des buts. On aimerait partir en vacances plus tranquillement, quoi,
oui, bien sûr. Alors après, parler de sauver l'honneur, je trouve que c'est un petit peu tôt dans la compétition, ouais. Sachant que il reste 3 matchs. Moi, il y a juste un petit coup de gueule sur cette coupe des, cette Ligue des Nations vis-à-vis de Deschamps. Alors. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y avait un système qui était en train de se mettre en place. Alors ça prend du temps de mettre un système, surtout quand c'est un 3-5-2 ou un 3-4-3, ça dépend de l'animation. Et au premier échec, il arrête, il revient à ses premières amours de défense à 4. Moi, je trouve que Deschamps, on sent qu'il ne sent, qu'il ne croit pas dans ce système, qu'il n'est pas vraiment confiant et qui, dès qu'il y a un petit grain de sable,
ouais.
Il revient en arrière. Moi, j'aimerais qu'il laisse le temps à ses équipes de s'installer dans ce système qui, pour moi, malgré tout, même s'il n'est pas encore au point, est celui qui utilise le plus les forces vives de cette équipe de France, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe de France et un peu au même poste. Donc moi, c'est mon coup de gueule et j'aimerais bien voir le système qu'il veut utiliser ce soir et j'aimerais bien qu'on revienne à cette défense à 3 avec, pourquoi pas, Ibrahima Konaté au milieu de sa défense à 3.
Ouais, justement, les compos sont tombés.
Ce qu'il dit, Louis-Marie, il le dit dans un plateau. Mais c'est pas le même, c'est pas le même cas pour Deschamps, qui a 6 mois d'une Coupe du Monde, il doit défendre son titre. Donc il a besoin de se rassurer et de rassurer tous les médias français qui regardent les matchs. Donc aujourd'hui, c'est les.
Est-ce qu'il gagnera en 4-5-1 cette Coupe du Monde?
Il y a que lui qui le sait. Hein. Il a bien gagné la dernière Coupe du Monde en partant. Il y a personne qui leur donnait même 10% de chance.
Cette fois-ci, ils sont favoris. Ils surprennent plus personne. On a bien vu qu'à l'Euro, ils ne surprenaient plus, qu'il fallait se réinventer
C'est pas à 6 mois de la Coupe du Monde qu'on va tâtonner les schémas tactiques.
Mais on a gagné la Ligue des Nations l'an dernier avec ce schéma tactique en Final Four. Pourquoi le lâcher à 6 mois de la compétition alors qu'il, contre des nations qui ne sont pas ridicules, quand tu bats l'Espagne.
Il est en train de peut-être tromper ses adversaires. Il va revenir au 3-4-3 ou au 4-4-2.
Peut-être, mais.
Et derrière, pendant la Coupe du Monde, il va jouer avec le 3-5-2. Hein. On n'en sait rien du tout. Il n'y a que lui et ses adjoints qui savent comment ils sont en train de préparer une Coupe du Monde.
Je trouve qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour faire des expérimentations. J'aimerais qu'il continue sur le même schéma.
Je pense qu'ils le prennent en considération. Hein. C'est l'équipe champion du monde en titre. Hein,
Bien sûr.
Quand on est à 5 mois d'une Coupe du Monde et on est champion du monde, on ne fait pas des expérimentations.
Ouais.
On améliore un système.
Je suis d'accord avec toi.
On peut faire rentrer des changements par rapport aux hommes. Mais le système en soi, on ne le change pas à 5 mois d'une Coupe du Monde. D'autant plus qu'on est champion du monde.
Il faut poser la question.
Par contre,
à l'entraîneur champion du monde en titre.
Non, je ne suis pas capable de pouvoir. Peut-être qu'il aura raison, mais
mettre en place les capacités.
Écoute, je vais te donner un exemple.
Alors,
Luis Enrique est arrivé après le mondial de Russie et quand il a pris l'équipe d'Espagne, il a changé complètement l'équipe d'Espagne. Mais il avait 4 ans. Il avait 4 ans pour mettre en place. Une nouvelle équipe, une nouvelle structure, des jeunes qui arrivaient. Mais tu as 4 ans devant toi. Mais tu ne le fais pas à 5 mois.
Par contre, ce qu'il faut
reconnaître, c'est que ce qu'on demandait depuis des années et des années, c'est qu'il y ait des changements en équipe de France. Et c'est vrai que ces derniers mois, il a amené des joueurs qui n'étaient pas appelés.
C'est ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression.
C'était trop tard.
J'ai l'impression qu'il l'a fait à contre-cœur, ce 3-5-2, et que dès qu'il a l'occasion de revenir en arrière, il le fait. Oui. Moi, je préférerais que plutôt qu'ils disent, dans les couloirs, ça se passe pas bien parce qu'on n'a pas des joueurs pour ce profil, il y a 2-3 joueurs qui ont ce profil-là, teste-les. Donne un match titulaire à Jonathan Clauss. Donne pourquoi pas du temps de jeu à Pierre Kaloulou, qui est pas mal dans ce schéma à Milan.
Il reste 6 mois à la Coupe du Monde. Il rien ne dit que aujourd'hui.
6 mois, c'est 5 matchs.
Aujourd'hui,
hein.
C'est un peu compliqué.
Jonathan Clauss n'a rien fait aussi pour mériter qu'on lui donne une chance. Il a bien convoqué, il a bien appelé. Mais derrière, il le voit à l'entraînement. C'est l'entraînement qui décide qui on va. Oui. Mettre sur le terrain et sur le banc.
De toute façon, le problème le plus criant, c'est la défense. Où on voit qu'il a changé pratiquement toute sa défense. Ça va être le cas pratiquement aujourd'hui aussi. Et c'est là où on se dit, s'il y a 5 mois de la Coupe du Monde, t'as pas une défense plus ou moins établie, qu'est-ce que ça va être?
Parce que tu as ce match
aujourd'hui, tu as 2 matchs que tu vas jouer en Nations League au mois de septembre. Et pratiquement,
c'est pour ça
tout ce que tu as.
Il y a 6 mois, mais plus beaucoup de matchs. Et après cette défense centrale, on est face à un problème en équipe de France, c'est que les 2 tauliers de la Coupe du Monde, qui a fait une paire formidable, ne sont plus au niveau. Oui. Parce qu'on parle d'Umtiti qui s'est perdu, lui, il est complètement hors jeu. Mais Varane aussi, il faudrait peut-être le remettre en question. Quand on voit, ce qui est fou, c'est que c'est très paradoxal. L'équipe de France a sans doute le réservoir le plus important de toutes les nations du monde à ce poste-là. Des jeunes défenseurs de qualité et de talent, en France, on en a une dizaine. Je ne peux même pas tous vous les citer, tellement il y en a. Et aujourd'hui, on se retrouve à insister, alors que Varane, ça fait quand même un an et demi qu'il n'y est plus, au bas mot, et qu'il n'est pas remis en question. Ça fait un an et demi qu'il n'est plus là. Il y a un moment peut-être que, qu'on aurait pu se poser la question avant.
Est-ce qu'on on peut faire plein de suppositions par rapport, mais eux ils sont avec leur effectif, ils savent ce que vaut, ce que valent Varane.
Bah, regarde les matchs, Varane il est nul depuis deux ans.
Mais on peut pas, on peut pas regarder le match du même œil que le sélectionneur. Ouais, il travaille, toi tu regardes le match et tu passes. Lui tous les jours, il est en train de réfléchir.
On sait que Deschamps n'aime pas trop changer.
Ouais, mais après on peut dire, on peut dire ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut faire attention parce qu'on a affaire à l'entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Donc ça veut dire, tactiquement, et c'est ce qu'il fait.
Non, mais ça, c'est bien. Il faut la regagner, quoi. Je veux dire, on peut pas non plus tout le temps se dire, oui, mais comme il l'a gagné en 2018, ça y est,
mais
c'est
surtout
fait.
Il faut avancer. Un échec au championnat d'Europe. Quand même, faut le souligner, avec une belle équipe, avec des bons joueurs, avec le retour de Benzema, et ça a pas pris. Donc effectivement, oui, on sait très bien que la défense va mal, mais comme tu l'as souligné, il est obligé de tester des nouveaux joueurs. Parce que t'as quelques matchs, donc je pense que il a mis Jonathan Clauss, ça a pas été bon, il a créé un penalty, il a essayé William Saliba deux fois, il est jeune, il a essayé plusieurs joueurs en défense centrale.
Qui est titulaire en Ligue des Champions.
Il l'a mis la dernière fois aussi.
Oui, mais pourquoi il l'a appelé? Il l'a appelé parce qu'il y a eu un blessé.
Oui.
Il aurait pu être appelé plusieurs fois.
La frilosité.
Non, mais après, regarde Lucadine, par exemple, il le connaît.
Lucadine,
il fait son taf, il sait que c'est une valeur sûre.
Aujourd'hui, la défense.
Il sera certainement
la défense centrale qui pêche. Je ne sais pas.
Ah, si, il a toujours été. Le sélectionneur il connaît ses joueurs parce qu'il les voit à l'entraînement, etc.
On parle de Lucadine en tant que joueur.
Ouais.
On peut donner notre avis.
Bien sûr.
Voilà, mais au niveau de la sélection.
Il est toujours appelé.
Au niveau de la sélection, lui il le connaît, il sait comment l'utiliser.
Il ne déçoit pas.
Et puis je pense qu'il y a un poste. Il y a un poste aussi à ce poste-là.
D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas véritablement de problème dans le couloir gauche. On voit que Théo Hernandez fait ses matchs. Lucadine est bon. C'est plutôt à droite que ça se passe, et dans l'animation de cette défense centrale, de cette charnière, qui pour l'instant, fonctionne pas, alors qu'individuellement,
si tu mets Koundé à droite, quand normalement il joue toute la saison au milieu.
Axe droit, il est parfait, Koundé.
Mais il a essayé des choses, mais ça n'a pas pris.
Je suis désolé. En octobre, il n'y aura pas un joueur français qui va émerger sur le côté droit.
On voit les mauvais alignements. À chaque fois, on a critiqué le mauvais alignement de la défense.
C'est vrai.
Donc à un moment donné, voilà, c'est une nouveauté aussi. Après, il faut se remettre en question. Le football de haut niveau, c'est se remettre en question. Il y a des joueurs qui sont blessés. Ça peut arriver aussi.
Nabil, tu penses que Deschamps ne se remet pas en cause?
Moi, je trouve qu'il ne remet pas son cause.
Il est critiqué souvent pour ça. Et oui, parce que
c'est son gros défaut.
Faut suivre l'actualité, monsieur Yassine.
Faut
suivre. Faut se mettre à la page.
Je suis plus l'actualité de l'équipe nationale d'Algérie, même si
on va revenir avec l'Algérie. Bien sûr, on va revenir.
Je suis de très proche de l'équipe nationale d'Algérie.
On parle de l'équipe de France.
Mais l'équipe de France, j'ai quand même. Ça m'arrive de regarder des matchs. Ça m'arrive de couvrir des matchs de l'équipe de France.
Tout comme Juan José.
Là, par contre, je rejoins Yassine. C'est vrai que ça. Un peu soporifique. Avant, on disait quand on regardait les matchs de Deschamps, on s'ennuie. Ouais. La chance à Deschamps, etc.
Là, ça va.
Et on retrouve ça là, en ce moment. On se dit purée.
Après, il y a de la fatigue. Mais il faut savoir, pour moi, séparer les joueurs qui sont légitimement fatigués après une saison très très longue. Honnêtement, je vais excuser les matchs un peu moyens de Tchouaméni qui a fait 61 matchs.
Non, mais Griezmann, par exemple, il n'a pas joué tous les matchs.
Il y a
plusieurs joueurs qui sont en fatigue et la deuxième catégorie de joueurs qui sont en difficulté depuis des mois, voire des années.
Il est sur le banc ce soir.
Il a toujours répété.
Mais Griezmann, ça fait 70 matchs consécutifs qu'il est en équipe de France.
Mais c'est son chouchou sur l'individu. Griezmann, c'est le chouchou à Deschamps, il ne bougera pas.
Il privilégie le groupe sur l'individu. Voilà, tout simplement. Donc, un groupe qui vit bien.
Alors,
voilà.
Bon, ça va bien là.
Aujourd'hui.
Mais comment tu peux dire, il n'y a pas de problème, il y a eu un problème la dernière fois.
Moi, j'attends. J'attends voir. Bon, aujourd'hui, c'est quand même la classification qui est en jeu. Ça, c'est important. Mais j'attends voir, quand on se réfère au mondial, les deux matchs fin de septembre. Parce que c'est là où on verra si effectivement Griezmann revient dans l'équipe, si Pogba revient dans l'équipe, ou si Varane revient dans l'équipe, on verra. C'est là où on aura vraiment le sentiment s'il va sortir avec une équipe 2018 ou il va ressortir avec une nouvelle équipe. Non, aujourd'hui, c'est important. Il y a quand même des gens qui ne sont pas là parce qu'ils ont dû rentrer.
N'Golo Kanté,
c'est son blessé. Donc, il a fallu composer aussi, notamment côté défense.
Depuis 2018, il a raté un match sur deux sur blessure pour l'équipe de France. Donc, c'est énorme. Il y a quand même une équipe qui est, qui est champion du monde, mais qui finalement n'est pas si en confiance que ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent.
Alors, là,
effectivement, la question, c'est
surtout
Griezmann,
la défense déjà.
La défense, on en a parlé
d'accord.
Pas mal. La défense centrale. Qui est le dépositaire du jeu de cette équipe ? Aujourd'hui, Griezmann a les clés du camion depuis un moment. Force est de constater que moi, j'adore ce joueur, c'est même pas la question.
Depuis un
an et demi, depuis son passage au Barça, c'est plus du tout ça. Moi, je dis pas de le sortir forcément, mais je dis au moins de le remettre en concurrence, de le sortir de son confort ou quoi qu'il arrive et commence les matchs en équipe de France. Et quand on voit Nkunku qui est dans le même profil,
avant la pause,
un peu atypique, capable d'attaquer, capable d'être au milieu, et je trouve qu'Nkunku mériterait d'être plus vu parce qu'en plus il a fait des performances intéressantes cette année.
Quand on fait cette erreur, c'est de dire que le joueur il est très performant dans son club. Par contre, un joueur comme Griezmann, que ça fait 6 ou 7 ans, même peut-être 8 ans qu'il est en sélection, ça veut dire qu'il connaît tous les rouages de la sélection. Et Deschamps, dans sa tête, il se dit, mais Griezmann, même à 50%, on peut faire la décision. Il faut savoir, même si les relations Benzema, Griezmann, même si des fois ils essayent de montrer aux yeux du monde qu'ils s'entendent bien, mais footballistiquement, ils arrivent quand même
Raisonnement se tiendrait et s'est tenu très longtemps parce que pendant des années, Griezmann était moins bien en club, mais était performant en équipe de France. Tant que tu es performant en équipe de France, moi je m'en fous que tu sois bon en club. La réalité, c'est que ça fait quand même 6-7 matchs que Griezmann
en septembre, il reste 2 matchs. Si encore il n'est pas performant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le mercato, on est en plein phase du mercato.
Est toujours là.
Willy, qui vient de faire. Qui est en train de marquer.
Sadio Mané peut-être en route pour la région bavaroise.
Tu penses que Griezmann, il va changer de club ?
Ça ne sera pas Griezmann. Si il opte pour l'équipe de France, moi, tout le monde sait que sportivement, Guiri, au-dessus de Griezmann, moi, je l'assume.
Tu vas pas le faire venir.
Bien sûr, Yacine, t'as Nkunku qui va remplacer Griezmann.
Yacine, il n'y a pas de problème que ça soit Guiri, Nkunku, qui tu veux. Le problème, c'est que ce genre de transition, ça s'anticipe. Tu peux pas me dire, j'attends en septembre de voir l'état de Griezmann. Si Griezmann, il est cramé en septembre, il est nul à chier, tu peux pas dire à un mec, Griezmann n'est pas bon, il faut lui avoir donné un peu les clés.
Non, mais là on verra ce soir.
Il n'est pas faux.
Ce soir, on va voir déjà le match. On va voir si son concurrent, il va être bon.
20h45, Stade de France.
Qui va assumer.
C'est pas faux. Il dit de bonnes choses.
Tu l'écoutes pas, Nabil. Franchement, il ne faut pas taper des mains quand même.
On sait tous autour de cette table, c'est parce que Yacine ne nous écoute pas.
Bien sûr. Yacine, il écoute quand il veut. On verra.
J'écoute que les bonnes choses.
On va voir.
Parce que mes oreilles.
Il y a des bonnes choses qui arrivent.
J'ai un système.
Avec l'ancien international algérien passé par entre la Lazio de Rome, Mourad Megni, qui sera notre invité juste après cette première pause. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 21 minutes, toujours en live avec toute l'équipe de Time Sport, je le rappelle, Yacine Nabil, sans oublier Louis Marie et Juan Trossé. Allez, on prend la direction de l'invité de ce soir.
Sport. The Special One.
Eh oui, Mourad Megni, joueur au poste de milieu terrain, technique et élégant, entré du côté de Clairefontaine, à l'INF, à peu près vers les alentours de 15 ans. Un grand joueur, vraiment, ancien international algérien, qui nous fait le privilège de nous accompagner et passer entre autres par Sochaux ou encore Bologne et la Lazio de Rome. Bonsoir Mourad, comment ça va ?
Bonsoir, ça va, merci, tout va bien.
Ah ben, alhamdoulilah, comme on dit. Dieu merci. C'est bien ça. Mourad, tranquillement. On est là, on est cool. On va commencer cette interview. Allez, avec une première question. L'élégance, on en parle. La technique aussi. L'élégance de Karim Benzema, vous en pensez quoi aujourd'hui? L'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur du monde actuellement?
Oui, bien sûr. Avec ce qu'il a démontré cette année. On peut qu'admirer ses performances et puis son talent. Ça, c'est, il l'a mis au devant de la scène, devant le monde entier, et ça finit par une belle récompense avec son club. Donc je pense que il a le plus gros avantage pour le Ballon d'Or, donc ça fera que récompenser son talent.
Bien sûr, on y pense fort en tout cas, pourquoi pas, pour un Ballon d'Or encore français. Yacine, Louis-Marie, des réactions avec Mourad Megni, notre invité ce soir.
Mourad Megni, s'il y avait quelqu'un, s'il aurait voté pour un Ballon d'Or, ça serait Riyad Mahrez.
Ouais, Riyad Mahrez, on va revenir sur cette élection algérienne.
Il n'y
a pas de problème, il est avec nous ce soir, l'ancien international. Allez, Louis-Marie, réaction.
Déjà, bonsoir Mourad. Moi, je voulais un petit peu, justement, vous demander quels étaient les projets en ce moment depuis. Parce que on se souvient du joueur extraordinaire techniquement qu'il était. Est-ce que c'est un projet de partager cette technique avec les plus jeunes? Vous avez des projets dans ce sens-là à l'avenir?
On y pense de plus en plus. C'est vrai que je me suis un peu écarté du monde du foot. Mais on y reste quand même attaché par les connaissances et par les anciens, par exemple avec mon ancien agent, de temps en temps j'ai au téléphone. Donc on en parle, mais pour le moment il n'y a rien de concret.
Allez, on poursuit. Yacine.
Bonsoir Mourad.
Et Mourad Megni.
Bonsoir.
Alors,
Mourad, est-ce qu'aujourd'hui, après tant d'années presque 6 ou 7 ans que tu as arrêté ta carrière, parce qu'elle a fini sa carrière en Algérie, est-ce que c'était une bonne chose de partir très jeune en Italie?
Écoutez, moi sur mon départ en Italie, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. En fait, moi j'avais signé avec l'AS Cannes à mes 13 ans, sauf que je devais les rejoindre à ma sortie de capitaine, donc 3 ans après. Sauf que durant ce laps de 3 ans, le club de Cannes a descendu en D2 puis en national. Donc c'était pas sûr qu'il garde le contrat, le centre
de formation. Formation.
Donc ma seule solution était de partir à l'étranger. Donc c'était un départ un peu forcé,
oui.
Mais que j'ai apprécié parce que en arrivant en Italie, j'ai découvert un autre football, mais qui me faisait rêver. À l'époque, l'Italie c'était le plus grand championnat. Après, on peut pas revenir en arrière et on ne sait pas ce que ça a pu être avec une formation en France. Je ne doute pas que ma formation aurait été très bonne en France, parce que c'est pour moi, avec l'Hollande, l'un des meilleurs pays formateurs. Donc je ne sais pas ce que ça aurait pu être, mais mon départ a été un petit peu forcé.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelques amertumes quand on, à un moment donné. Certes, il y a eu la comparaison avec Zidane, il y a eu plein, on vous a présenté comme le nouveau crack du football mondial, pas que du football français. Après, quand on voit le cheminement de votre carrière, on se dit, il y a des points d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait une analyse ou un diagnostic où vous avez identifié où ça n'a pas marché pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous?
Écoutez, il faut un peu de tout pour réussir une carrière. Faut déjà, moi, pour ma part, il aurait fallu que physiquement je subisse moins de blessures. Après,
allez-y, on vous en prie, Mourad Megni. Ça ne fait rien, Mourad Megni. Nous, ça nous, c'est un plaisir.
En même temps, désolé. Donc, je vous disais, il y a eu les blessures, il y a eu des choix, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Et après, si je regarde moi, personnellement, j'aurais pu faire plus, notamment travailler physiquement, travailler en dehors du foot, en dehors du travail qui est fait avec le club. Aujourd'hui, on voit que les joueurs font tous du travail personnalisé, ils travaillent avec des diététiciens, tout ça. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de ça.
Et pourtant, vous étiez dans un championnat où c'est connu pour sa rigueur sur la préparation physique. Vous étiez en Serie A quand même.
Ouais. Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr que nous, on faisait un travail physique qui n'était pas personnalisé. C'était vraiment pour le groupe. Maintenant, après il y a plein de petites choses qui font que on a telle carrière, mais moi c'est sûr que chaque fois que j'ai été bien, c'est quand physiquement j'ai pu enchaîner les matchs. Et malheureusement, chaque année, j'avais des problèmes physiques. La seule année où j'ai été tranquille, c'était celle où j'étais en série B avec Bologne, où j'ai fait 30 et quelques matchs. J'ai fait une très bonne saison. La preuve, l'Atletico est venu me chercher à la fin de cette saison-là. Un club qui jouait la Champions League, donc c'est pas rien. Donc,
ouais, ça se refuse pas, surtout à ce moment-là.
Faut pas se refuser, puis ouais. mais c'est pour vous dire ouais. que quand on enchaîne les matchs, on gagne en confiance, on gagne en.
Bien sûr.
Voilà, c'est une fois que la tête elle va bien, le reste qui suit.
Oui. Ça allait bien.
J'ai jamais été tranquille, quoi.
Bien sûr, mais ça allait bien du côté de Bologne. Un peu moins peut-être à Sochaux, mais en tout cas à la Lazio aussi. C'était assez remarquable. Yacine, rapidement. On a mal de questions là aussi.
On se connaît très bien avec Mourad. D'ailleurs, le jour où il a signé son contrat avec Oumselel à l'Escourcoron, moi, la question que je me posais, je me suis dit, qu'est-ce que fait un joueur pareil dans un club pareil? C'est jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais demandé, d'ailleurs.
Les gens qui nous écoutent ce soir,
parce qu'il y avait le contrat en arabe, donc, et j'avais relu et je me suis posé la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que fait un joueur pareil à cet âge-là dans un club pareil? Je me suis jamais, j'ai jamais compris pourquoi. On peut me donner toutes les raisons du monde. Hein.
Alors,
le truc, c'est que moi, je sortais de un an et demi de blessure après la Coupe d'Afrique. J'ai fait 6 mois pour espérer jouer la Coupe du Monde 2010.
Ouais.
Donc sans juste avec des soins, donc sans opération. Finalement, ça a pas suffi pour mon genou. Donc après, je me suis fait opérer. Je suis revenu après 4 mois. Donc total, pratiquement un an sont passés. Et après, j'ai fait une rechute. Donc rebelote encore 3-4 mois. Presque. Je suis revenu janvier d'après. Donc il me restait 4-5 mois, pardon, avec mon club, avec la Lazio.
Oui.
Sauf que c'est compliqué d'arriver dans un effectif qui tourne, et surtout avec un nouvel entraîneur. Parce qu'entre temps, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui ne faisait pas.
Ah oui, faut tout en considération. Okay,
il avait son groupe, quoi, déjà, qui était fait.
Ouais.
Et donc après, moi, il me restait qu'un an de contrat. Fallait que voilà, on pèse le pour et le contre, on a une famille, on se dit qu'est-ce qu'on fait, on a un avenir incertain avec la radio, ou voilà, un changement de vie. Moi, sachant que j'avais passé 4 mois au Qatar et que j'ai apprécié le pays et tout, on a pesé pour et contre, on a décidé de faire nos bagages pour le Qatar, quoi.
On a pas mal de réactions, Mourad Magni. Allez, rentre au C. Et on a aussi des tweetos, là, des réactions qui fusent sur les réseaux sociaux.
Alors, de mon côté, j'aimerais lui poser une question sur l'actualité, justement, sur l'équipe d'Algérie. Vous avez joué en Algérie, signalé au Qatar aussi. Et quel regard portez-vous, justement, sur cette équipe d'Algérie qui, depuis quelques mois, passait par un trou d'air et qui paraît renaître de ses cendres après une CAF assez compliquée, assez difficile. Quel regard portez-vous justement sur cette équipe algérienne?
Bah écoutez, le fait qu'il y ait un trou d'air, c'est normal après quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent quand une sélection connaît beaucoup de bons moments. On l'a vu même avec l'équipe de France, quand après 98-2000 il y a un petit trou, c'est normal, il y a des cycles comme ça. Et puis là, je vois qu'il retrouve le goût de la victoire. Donc, attendez, juste un. Oui. Ok. Et donc c'est bien. Ça, le fait d'injecter des nouveaux joueurs aussi, ça va amener du sang neuf. Ça prend du temps, mais c'est de bonne augure pour la suite.
On poursuit. Oui, le mari, Yanis.
Mourad, merci. Même si vous restez un peu loin. Je sais que vous êtes un peu loin du football ces dernières années, mais quand même l'élimination de l'Algérie de la Coupe du Monde, certainement, vous a fait très mal.
Oui, c'est sûr que forcément on aurait aimé les voir en Coupe du Monde avec la qualité qu'ils ont. C'est sûr que c'est bien dommage de ne pas les voir. Après, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien.
Oui.
J'espère qu'on les verra la prochaine.
Nabil, on poursuit avec Mourad Magni, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM.
Bonsoir Mourad, j'avais quelques questions à te poser. Moi je t'ai suivi quand tu étais jeune et franchement tu étais exceptionnel, grand joueur, un vrai meneur de jeu, un vrai 10. C'est pour ça, d'où la comparaison avec Zinedine Zidane. Parce que franchement, je vais te le dire, hein, t'es talentueux, tu respires le football, vraiment. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as pas eu la carrière que tu devrais avoir parce que il y a eu des mauvais agents, ou peut-être que physiquement, parce que t'as évoqué, t'as été souvent blessé. Mais aussi, est-ce que t'as des regrets par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a manqué? Ou est-ce que c'est l'aspect mental? Parce qu'on dit souvent qu'on néglige le mental. Il y a pas de préparateur mental, il y a pas de coach mental à ton époque. Hein, je pense pas que ça existait. Ou t'avais pas peut-être un préparateur physique aussi en plus de ton club. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le recul aujourd'hui. Comment tu analyses ta carrière et justement ses choix de carrière tout simplement.
Bah comme je disais un peu plus tôt, c'était il y a plein de facteurs qui font que tu peux mener une certaine carrière ou pas. Moi je sais qu'il y a eu il y a eu les blessures, c'est vrai. Après avec un peu de recul et un peu de entre guillemets un peu plus de sagesse, je me dis que il y a un moment où je me suis un peu j'ai pas fait les peut-être les efforts qu'il fallait, comme je disais, par rapport au fait de travailler un peu plus physiquement ou faire les efforts à côté. C'est vrai qu'à l'époque il y avait pas ce genre de personnalisation de
la travail, préparation
de la préparation. Mais ça commençait tout doucement, sauf que je me disais, mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Italie, j'étais jeune, j'avais 16-17 ans et je faisais déjà, enfin j'étais très à l'aise, même avec les pros quand j'étais appelé, j'étais plus qu'à l'aise. Donc je me disais, il y a eu peut-être inconsciemment un moment où je me suis dit, c'est facile le foot, donc peut-être que si à cet âge-là, j'arrive à être.
Est-ce que tu avais ta famille qui te poussait derrière aussi?
Ouais, j'ai eu ma famille qui me poussait, c'est sûr. Après, c'est vrai que mentalement, il y a un moment où j'ai perdu un peu confiance en moi, notamment quand je suis parti à Sochaux où j'étais pas. En fait, j'y suis allé, mais
à contre-cœur.
À contre-cœur, ma tête, elle était encore à Bologne. J'étais dégoûté de partir de
le Bologne. Climat, la ville, tout ça, bien sûr.
J'étais habitué à Bologne. Ça faisait quand même quelques années que j'y étais et que. J'étais habitué à l'Italie et de me retrouver à Sochaux, j'étais un peu perdu. Et là, ce coup en Ligue 1, là, j'ai pas aimé. Et puis après, j'ai perdu un peu confiance en moi. La série B, après, l'année d'après, ça m'a fait du bien. J'ai pris confiance en moi. Et c'est vrai que mentalement, il y a un moment où j'ai un peu lâché. Mais. Ouais. Voilà, c'est comme je dis, il y a plein de choses qui font que.
Plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est bien ça, Mourad Magni. On a une réaction, Mourad Magni, rapidement, avant de vous laisser filer. Sur l'antenne de Beurre FM, on a pas mal de personnes qui nous posent des questions. On a Mourad, justement, qui vous pose la question. Que pensez-vous du championnat algérien, Mourad Magni?
Bah écoutez, moi, là, je l'ai pas trop suivi ces derniers temps. Ouais. Moi, quand j'y étais, c'était. J'ai apprécié. Hein. C'est un championnat où. Où, dans n'importe quel stade où on va, il y a de l'ambiance, où il y a quand même. On sent que tout le monde aime le foot, donc c'est plaisant. C'est peut-être le niveau, il est peut-être un peu. Il n'est pas aussi élevé que. Je pense que ça correspondrait à peu près à une deuxième division, enfin, le fin de classement de la deuxième, toi. Parce qu'il y a des bonnes équipes quand même.
Bien sûr. C'est en progression.
Mais c'était en progression. Ouais. Malheureusement, il y a plein de. Enfin, moi, je parle de ce que j'ai vu à Constantine. Il y avait pas mal de choses qui font que ça a du mal à avancer, en fait.
Bien sûr. C'est vrai. Il avait joué du côté de Constantine, Mourad Magni. C'est ça. Il y a ces noms poursuivis rapidement avant la fin.
Aujourd'hui, enfin, il y a toujours cette problématique des binationaux. Vous étiez aussi dans le même cas quand vous avez rejoint la sélection algérienne. Aujourd'hui, avec le recul, il y a beaucoup de noms qu'on cite. Ils vont faire le choix soit à la France, soit à l'Algérie. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces joueurs-là qui sont dans cette situation?
Bah, je n'ai pas de conseil à donner. Juste, ils doivent suivre ce que leur cœur leur dit. Moi personnellement, quand j'ai fait mon choix, ça a été vite fait. Il y a eu la règle qui est passée. On m'a demandé est-ce que j'aimerais jouer pour l'Algérie. J'ai tout de suite dit oui. Après, j'avais un certain âge. Peut-être que d'autres, ils sont plus jeunes, donc du coup, ils hésitent un petit peu.
Ouais. Ils hésitent ou ils font des calculs?
Je pense qu'ils doivent hésiter. Moi, je sais que quand j'étais en équipe de France plus jeune, on m'avait
champion du monde en U17, je crois, avec la France. Hein.
Ouais. Oui. Après, j'ai été jusqu'en espoir avec l'équipe de France.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, il y avait Domenech et lui, il m'aimait beaucoup. Il pensait.
C'était son chouchou.
Après,
hein.
Par la suite, il a eu les seniors, enfin la A.
Ouais.
Je pense qu'il m'aurait appelé. Alors à ce moment-là, peut-être ça aurait été différent. Mais mon cœur, il était quand même algérien. Quand j'allumais la télé, que je regardais l'équipe nationale, je vibrais, quoi. Et la France ne me faisait pas cet effet-là. Donc après, il y a un calcul à faire. Est-ce qu'on veut jouer pour l'Algérie, peu importe son niveau ou... Enfin voilà, moi en 2009-2010, c'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était en bonne progression. Ouais. Mais aujourd'hui, un Algérien qui hésite, l'aspect sportif, l'Algérie, elle est... Bon, là, c'est pas la Coupe du Monde, mais je veux dire, elle a été championne d'Afrique. On peut rencontrer.
Elle a changé grand par rapport à.
Bien sûr, maintenant, tu vas en Algérie, c'est pas
la même chose.
Ouais. C'est pas comme avant. Nous, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien. Et ce qu'ils ont fait,
D'ailleurs, ça a évolué complètement. Oui, rapidement, on a bien la dernière réaction. Ouais.
D'ailleurs, comment s'est passée votre intégration au sein de la sélection algérienne? Parce que sachant que vous avez débuté avec la France, comment vous avez été reçu?
Non, très bien. J'ai été super bien reçu. Après, comme j'ai dit, moi, j'ai été le premier joueur à avoir utilisé cette nouvelle loi.
Oui, bien sûr.
Par la suite, sont venus d'autres joueurs. Je parle même dans d'autres. Dans d'autres sélections aussi.
Ouais, donc,
j'ai été le premier à utiliser cette voie-là. Donc après, même niveau des joueurs, j'ai été tout de suite accepté. Et puis le public aussi, quoi. Donc,
mais ça c'est super. Mohamed Magni, un grand merci pour toutes ces réactions. Justement, peut-être une dernière qui titille un peu les auditeurs de Beurre FM. Peut-être ce qu'on peut vous souhaiter déjà, c'est la santé, Inch'Allah, tout au long de votre vie, à vous et à votre famille, mais aussi peut-être la venue d'un certain Zidane à Paris. Vous en pensez quoi? Zidane du côté du PSG, Mohamed Magni.
Bah écoutez, ce serait magnifique. Après, je ne sais pas si ça sera faisable ou pas, mais en tout cas...
C'est un supporter parisien qui parle.
Des grands noms en France, ce serait magnifique. Moi, je sais que le fait d'avoir Messi, Neymar, tout ça, ça te pousse à regarder le championnat français et le PSG. Donc,
bien sûr,
ce serait vraiment magnifique.
C'était pas votre rêve de jouer pour le PSG?
Moi, j'avais un seul rêve. C'était de devenir professionnel.
Voilà, c'est ça. En tout cas, on se rappelle tous le petit pont en Égypte aussi, de Mourad Meghni.
Il n'y a pas que ça.
Eh oui, Mourad ou encore Yassine Nabil et tant d'autres s'en rappellent. Un grand merci, oui, de grands joueurs, des grands hommes, tels que vous, Mourad Meghni, sur l'antenne de Beurre FM ce soir.
Il a joué même pour le Portugal aussi.
Bien sûr, il a la nationalité même, je pense. Un grand merci à Mourad Meghni, l'ancien international algérien, d'avoir partagé ce moment avec nous sur l'antenne de Beurre FM. La dernière page de pub avant de revenir avec toute l'équipe.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Le 01 53 48 3000, 20h44 minutes, à la suite de l'interview avec un certain Mourad Meghni. Le petit clin d'œil aussi à Foudil. Voilà, dans les couloirs de la radio, sans oublier Vanessa qui arrive à grands pas. 21h, 23h avec son réalisateur Giovanni. Le débat du jour, justement, l'idée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Belle alternative ou choix par dépit, justement. Allez, c'est maintenant, c'est le moment PSG.
Time Sport.
La troisième mi-temps.
Eh oui, Louis Marie, tant de choses à dire là aussi. Après l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, Zidane, on le verra pas, peut-être, on le verra. On avait pas mal d'infos cette semaine, là la semaine dernière en tout cas.
Des infos.
Ça part dans tous les sens. Ouais.
C'est difficile de.
Il est de pas allé, il est allé au ça. Qatar, on ne sait pas.
Bah, si on demet, après moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle va être la stratégie du PSG, parce que. Pourquoi pas Christophe Galtier? Mais alors, si tu fais Christophe Galtier, ouais, il faut changer diamétralement l'image que tu veux faire de ton club. Galtier, c'est un bâtisseur qui bâtit avec des jeunes. C'est pas quelqu'un qui arrive sur un projet pour être immédiatement performant des joueurs très confirmés. Galtier ne sera pas capable, à mon sens, de gérer les grands égos des grandes stars qu'il y a actuellement dans le vestiaire du PSG.
Ouais.
Donc si tu prends Galtier, pour moi, c'est pour l'avenir. C'est pour construire un
projet sur 3-4 ans. Toi, ouais.
Et moi, ce qui me gêne, c'est que dans le même temps, j'entends Galtier pourrait venir,
ouais,
et en même temps, Skriniar est la piste principale dans la défense centrale. Pour moi, c'est pas compatible. Si tu fais venir Galtier, va chercher Botman à Lille, si tu veux un défenseur central. Un jeune qui a du potentiel, qui est en Ligue 1, qui va quelque part respecter son entraîneur, plutôt qu'un joueur qui est plus capé que son entraîneur. Moi, je cherche juste, en tout cas au PSG, quelle que soit la voie qui est choisie, qu'il y ait de la cohérence.
Ouais.
Si on veut continuer une politique de star, c'est pas un Galtier qu'il faut, c'est un Zidane.
Ouais.
Si on a envie de partir sur autre chose, de mettre en valeur la Ligue 1, avec, comme c'est très bien le faire Campos, aller chercher des jeunes pour les valoriser, pour faire grandir un projet sur 5 ans, Galtier c'est super. Mais mettez-lui les joueurs qui vont bien avec et acceptez de lui donner du temps et que l'an prochain, le PSG ne soit pas forcément candidat au titre en Ligue des Champions.
Alors Galtier,
pourquoi pas, effectivement. Je partage tout à fait son avis.
Ouais.
C'est vrai que Zinedine Zidane a le nom, a le palmarès, a tout pour pouvoir entraîner le PSG, mais le fait de venir à Galtier, c'est la question que tu posais en fait au début, c'est un choix ou c'est par deux pis. Écoutez, on a rien d'autre à peut-être, et donc on va chercher Galtier. Alors Galtier, je suis tout à fait d'accord, je ne sais pas s'il serait pourrait gérer le vestiaire du PSG, il faut juste
Zidane voir le profil idéal.
Mais avant lui,
pour
il y a
trois entraîneurs.
Il y a même quatre entraîneurs qui sont cassés les dents. Tu as d'abord Ancelotti qui a dû partir, mais lui s'était fâché avec Al-Khelaifi.
Ouais.
Donc tu as Emery, tu as Laurent Blanc, qui a été viré à cause de cette défaite. On a Tuchel et puis on a Pochettino qui ont quand même au niveau international,
mais qui sont beaucoup plus reconnus.
Et pour gérer des stars, ils savent mieux le faire. Alors, je ne pense pas que ça soit le meilleur entraîneur pour le projet tel quel, parce qu'effectivement,
Paris Saint-Germain.
Paris n'a pas le temps de construire sur 3 ou 4 ans.
Ouais.
Paris doit gagner l'année prochaine, la saison prochaine. Il ne peut pas attendre. Tu as raté 5 ans avec Neymar. Tu n'as pas réussi ton pari.
Tu ne peux pas
te planter aujourd'hui.
Oui.
Avec un entraîneur comme Galtier,
c'est tout. Qui est sur le marché pour avoir ce profil
d'entraîneur. Un autre problème.
Qui est sur le marché?
Vous parlez de Galtier.
Oui, Galtier.
Moi, ils sortent l'information.
Entraîneur niçois.
Campos est proche de Galtier. Tu vas expliquer, toi, Mbappé, à Neymar, à Messi, que votre entraîneur, ça va être Galtier.
Alors,
vous trouvez que ça, c'est raisonnable? Ça rentre dans la tête?
Il fait du bon boulot.
Il a fait du bon boulot, il a gagné un titre avec Lille, par accident.
Par accident, non.
Mais il faut qu'on arrête à un moment donné de se foutre de la gueule. Si demain les Qataris décident de changer complètement de cap et d'opter pour Galtier, donc il faut dire Mbappé, il faut partir, il ne faut pas renouveler Mbappé, Messi, il faut libérer, Neymar, il faut libérer.
Moi, je suis d'accord avec le fait que Galtier, c'est un projet à moyen terme. Mbappé n'a pas le temps d'attendre. Mbappé, c'est la Ligue des Champions.
Et tu vas dire à Messi que c'est Galtier qui sera ton entraîneur.
Il est d'accord avec toi, Yacine.
Mais c'est pas d'accord ou pas avec
moi. Bien sûr. Mais sur le fait,
juste le cerveau
de l'entraîneur Galtier.
Aujourd'hui, c'est pas cohérent.
C'est pas cohérent du tout. Moi, je ne veux pas qu'on laisse cette information à ça.
Moi, je critique pas Galtier sur le fond. Je suis pas rapproché parce qu'il a fait du bon boulot.
Moi, je pense que c'est la politique de communication du clan Galtier pour lui faire augmenter. C'est-à-dire, c'est monter dans les enchères.
Zidane, c'est la même chose.
Parle pas de Zidane.
On
parle pas. Zidane, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde de tous les temps. C'est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps.
Zidane,
on parle pas de Zidane.
Tu mets ta pression
à lui. Mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là, tu mets la pression sur Zidane, avec Galtier.
On s'écoute, allez, vas-y, rapidement, avant la fin de cette émission.
Tu es complètement en train de dire toi, tu mets la pression sur Zidane.
On écoute, Nabil.
C'est pas à sens unique, monsieur Yassine.
Bien sûr, bien sûr.
Ça, c'est bien
dit, ça, c'est bien dit.
Honnêtement.
À part l'équipe de France, la Croatie vient d'ouvrir le score sur un pénalty.
Ah ben voilà, voilà, voilà.
Ça fait le jeu de Zizou. Zizou, il a toujours dit qu'il voulait l'équipe de France. Donc là, ça met la pression sur Didier Deschamps.
Aussi.
Didier Deschamps, aujourd'hui, se casse la gueule avec la Ligue des Nations ou même pendant cette Coupe du Monde. Zidane arrive tout de suite. Donc c'est une évidence. Donc Zidane met la pression aussi. C'est gagnant pour Zizou. Il est sur le marché, il est dispo. Et là, il pourra dire, écoutez, j'ai refusé un projet du PSG avec les Qataris pour venir avec l'équipe de France. Donc c'est possible dans ce sens-là.
Zidane ne s'est jamais prononcé.
Pour revenir sur le PSG, on sait qu'on a dit Ocampos. Et on a déjà discuté, c'est
Mbappé
qui négocie entre autres choses l'arrivée d'Ocampos.
Mais oui.
Alors Ocampos peut peut-être dans le projet qu'il va construire amener Galtier, parce qu'Ocampos a la mainmise sur l'ensemble du PSG. Et avec Zinedine Zidane, ça pourrait pas être comme ça.
Ouais.
Je ne sais pas si Ocampos, Zidane pourrait coller. Sincèrement, je ne pense pas.
C'est une vraie question.
Zidane qui vient à Paris pour être sous la houlette de Ocampos, comme Tuchel et Meri l'ont été sur l'houlette de Leonardo, je ne pense pas que ça puisse marcher comme ça. Quand Zidane était au Real, parce qu'en fin de compte, il n'a entraîné que le Real. C'est la réalité.
Il y avait pas. Il a entraîné que le Real.
Non, mais je veux dire pas là. Je veux dire pas là que le Real n'a pas
entraîné. Ça c'est vrai.
Excuse-moi. Le Real n'a pas de directeur sportif. Il n'y a pas de directeur sportif au Real.
Tu fais bien de rappeler.
Donc Zidane avait le contrôle sur l'ensemble avec Florentino Pérez. Mais il avait le contrôle sur tout.
Il y a un président très très fort.
Au PSG, c'est pas le cas.
Il y a une institution très très forte au Real qu'il n'y a pas au PSG.
Tu fais bien de rappeler peut-être.
Mais après toute cette histoire. Le truc, c'est que moi, ce que je suis hyper étonné,
alors
si on me dit que le même club, pour la même politique, pour la même stratégie, avec le même directeur sportif, a comme alternative Zidane
alors
ou Galtier, qui pour moi sont des projets diamétralement opposés, qui peuvent être valables l'un comme l'autre, c'est pas la question. Je me demande comment travaille ce club. Parce que pour moi, c'est complètement incompatible de viser ces deux personnalités en même temps. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. C'est tout ce que je dis.
On est d'accord, Zidane, bien c'est sûr. Pas Galtier. Galtier, non, c'est pas Zidane.
Mais
on est d'accord.
Dire que Zidane n'est pas Galtier, c'est pas du tout.
On n'achète pas Messi, Neymar et Mbappé pour mettre Galtier sur le banc. Et c'est intenable. C'est de l'amateurisme, c'est impossible. S'ils le font, Messi et Neymar partiront dans le mois. Voilà, ça c'est Chekib qui nous le dit.
Il n'y a personne aujourd'hui. Ce sont que des informations qui sortent par-ci, par-là.
Bien sûr.
Les Parisiens ne se sont jamais prononcés pour dire qu'on veut prendre Galtier. Ou peut-être Zidane avec le nom qu'il a.
Tu sais comment ça se passe au football. Le PSG a fait un démenti.
À un moment donné, il faut être naïf. Il faut être naïf pour croire que Galtier va entraîner le PSG.
Au PSG.
Si tu n'es pas naïf, tu ne peux pas croire.
Même le président Macron.
Même le président Macron, justement, il a souligné Zidane au PSG, oui.
Bien sûr.
Comme le soulignait notre.
Nabil, pour terminer.
Notre invité tout à l'heure, Mourad Meghni.
Oui, Mourad Meghni.
Effectivement, il aimerait que Zidane entraîne en Ligue 1.
C'est ça.
Mais oui, mais
le groupe A, la France face à la Croatie, but sur pénalty de Luka Modric.
Après avoir
confirmé
le meilleur joueur français en championnat de France, eh bien, si tu rapatries le meilleur entraîneur français, la plus grande légende du football français, ça sera un énorme coup pour la Ligue 1.
Allez, on a Majid et aussi Nassera qui disent go go la France, parce que là, c'est pas trop trop bon, les carottes sont cuites peut-être. On a aussi Karima et Naël, sont supporters
de la Croatie. En cas de défaite, ils sont éliminés.
On joue 10 minutes et prennent un but contre la Croatie qui n'est pas la dernière des parvenus.
Pas mal.
Il reste 70 minutes.
On laisse le temps, on reviendra sur ce match-là.
Ils ont le temps de revenir.
Merci Yacine, merci Nabil de m'avoir suivi avec Louis-Marie. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h à suivre des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive à 21h. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.